Donc, rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Nous poursuivons notre émission avec un ami de la radio, hein, Julien. Bonjour, Julien.
Bonjour.
Ça va bien? Nous, on est tellement habitués de se voir, puis je veux dire, j'adore ta présence parce qu'il y a une énergie qu'on retrouve, je veux dire, chez toi et également dans ta programmation de Temps Zéro, parce qu'il faut rappeler que Julien est le programmateur de Temps Zéro dans une section, je veux dire, du Festival du Nouveau Cinéma qui a débuté ce mercredi, qui se poursuit jusqu'au 31 octobre. Julien, là, je t'avoue qu'on est un peu perdu, hein, avec les nous. La pandémie.
On est tous. Au moins, on est au même niveau.
Ah oui, hein? Et là, on va avoir vraiment besoin de ton aide parce qu'il faut que tu nous situes. Qu'est-ce qu'il faut voir? Je sais que tu les aimes tous, mais hein, donc pour les gens là, je veux dire, qui sont devant leur écran puis qui n'auront pas la chance de pouvoir vivre tes présentations, hein, à l'Impérial, ben, est-ce que tu peux nous aider, hein, à nous situer dans ta programmation?
C'est ça. Je peux peut-être faire un service personnalisé où j'appelle et à chaque fois, la projection, peut-être, je ne sais pas.
Il faut que tu trouves un moyen, je veux dire, de te filmer en Zoom pour avant les films, qu'on puisse retrouver, je veux dire, toute cette énergie que tu avais lorsque tu arrivais sur scène et tu disais « Voici pourquoi j'ai programmé ce film-là et voici pourquoi je l'aime autant. Hein? »
Bon, ben écoute, je me rends pas bien compte de ce que je fais, hein, sur scène,
ah non?
Devant des gens. Donc,
mais tu vois,
j'entends les réactions, c'est tout.
Ouais. Mais bon. Mais c'est ce qu'on ressent, généralement. C'est ce qu'on ressent.
Mais oui, donc, pour faire du sens de tout ça, en fait, cette année, ça va être quand même assez simple. Alors,
ah oui, hein?
Déjà, il y a un passe-temps zéro. C'est la première fois dans l'histoire de cette section qu'il y a un passe-temps zéro. Puisqu'on est en ligne, et que dans Temps Zéro, il y a 11 films, et que le pass coûte 88 $, et donc ça revient à 8 $ le film, et donc voilà, si jamais on veut voir tous les films Temps Zéro, c'est possible. Ça, c'est une première chose quand même, c'est passé par rien, ça permet de fouiller, d'aller voir tout. En plus, le festival est du 7 au 31 octobre, donc c'est sur un mois, c'est parfait. Si on est deux en couple, c'est encore mieux parce qu'on partage la somme, ça revient pas cher. Voilà, s'il y a deux personnes en coloc ou autre, qu'on n'a pas le droit d'avoir d'inviter des gens, mais bon. Donc voilà. Donc ça, c'est une chose. Après, à l'intérieur de ça, oui, il y a plein de films. On peut y aller pour qu'est-ce qui est vraiment...
Juste mentionner que cette passe du temps zéro, je pense qu'elle est géniale parce que je sais que lorsque tu programmes tes films, pour toi, c'est important qu'il y ait des résonances entre les films. Hein? Et c'est très rare que pendant le festival, on a le temps de tout voir les films. Alors que là, finalement, la pandémie va peut-être nous permettre de mieux comprendre, dire, les liens que tu peux, je veux dire, finalement, développer entre les films lorsque tu les choisis.
Ouais, parce que c'est ça, c'est des films qui sont très forts individuellement, bien sûr, mais par contre, cette section elle est toujours très très difficile à définir, parce qu'elle va un peu dans tous les sens. Tout type de cinéma, ça peut être des films extrêmement commerciaux, des films de genre, ça peut être des films d'auteur très sérieux, des films un peu expérimentaux, des films un peu contemplatifs. Il y a de tout, mais par contre, ce qui se dégage, c'est un véritable, idéalement, mais pour l'instant, ça a toujours fonctionné, une sorte d'état d'esprit, en fait.
Ouais.
Tout genre confondu, tout pays confondu, c'est cette espèce de manière d'enrayer un petit peu une sorte de machine cinéma un peu officielle, un peu toujours des choses un peu mises en boîte qu'on a besoin de définir très facilement pour pouvoir les mettre en vente, pour pouvoir les mettre en marché. Et c'est des choses qui échappent un peu à ça, qui essayent des choses. Il y a un petit peu ce truc que moi j'ai toujours en tête quand je programme, c'est bon, l'effet de surprise en premier, c'est-à-dire que j'essaie d'être le plus blasé possible, et bon, ça vient naturellement quoi qu'il arrive, mais il y a tellement de films. Donc il y a cet effet de surprise, et puis il y a surtout cette notion que faire des bons films, il y en a plein des bons films, il n'y a que ça des bons films même. Notamment dans le cinéma américain, ils sont tous bien faits, ils sont tous bien joués, ils sont tous bien réalisés, ils sont tous faciles à regarder, ils sont tous... voilà, c'est ça, ou même dans le cinéma d'auteur européen, il y a un truc comme ça, puis j'aime bien les films qui sont un peu plus casse-gueule d'une certaine manière, qui pour moi sont plus intéressants que bons. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, hein, loin de là. Parce que si on arrive à faire les deux, c'est parfait. Mais Il y a des nouvelles tendances comme ça à travers la planète, en plus de gens qui veulent essayer d'autres choses que l'éternel drame ou comédie ou film d'horreur qui ressemble de toute façon à n'importe quel autre film d'horreur ou à n'importe quel drame ou à n'importe quelle comédie, et qui essaie justement d'aller soit entre les genres, soit d'essayer un autre type de narration, un autre type de rapport, de travailler le spectateur et tout ça. Donc ça, c'est des tendances qui montent depuis à peu près, à mon avis, 4-5 ans. Qui est justement un film comme, on en parlait tout à l'heure, de L'enlèvement de Michel Houellebecq, par exemple, c'est cet état d'esprit, c'est ces gens qui vont essayer un truc, et a priori, c'est très casse-gueule, ça a toutes les chances de se planter quelque part, d'utiliser Michel Houellebecq, qui joue lui-même son propre rôle, qui va rencontrer une sorte d'autre France, comme ça, avec un humour complètement décalé et tout ça. Alors, ce qu'on va des fois entendre, c'est comme, ah oui, des fois ça marche mieux, des fois ça marche moins bien, mais c'est pas ça la question, c'est que c'est ce type de cinéma. C'est un truc qui essaie d'échapper à justement les conventions de plus en plus évidentes. Et voilà, moi c'est ce que je recherche, puis ces films-là, ils résonnent tous ensemble comme ça.
Et justement, je trouve que l'appréhension de Temps Zéro, ça a tout le temps été un peu peut-être les incompris à un certain point, et aussi tu vas chercher des trucs qui sont déjà passés. Tu parlais de L'enlèvement de Michel Houellebecq, Out of the Blue. Est-ce que c'est quelque chose aussi de ramener certains films de l'avant qui ont peut-être été oubliés à un certain point? Moi, je savais même pas que Dennis Hopper avait réalisé un film.
Ah ben c'est ça, oui. Alors, puis quel film? C'est ça pour moi. Alors moi, c'est un film que je voyais et que j'ai vu dans les années 80. En tout cas, ouais. Je le voyais dans les vidéoclubs. Je l'ai vu, je sais, mais je m'en souvenais pas très bien. Je l'ai revu il y a quelques mois parce que le film est entièrement restauré. Et là, tout d'un coup, ça a été une gifle phénoménale. C'est un chef-d'œuvre incroyable. C'est un des plus grands films des années 80. Voilà, c'est exactement l'état d'esprit de Temps Zéro. Il y a un truc de résistance, de rébellion, d'expérimentation, de faire différemment de comme on fait du cinéma d'habitude. C'est là où on voit que Dennis Hopper était un immense cinéaste. C'est un film qui, à l'époque, a été quand même porté au nu, hein, déjà, mais qui est un film emblématique de toute une décennie, des années 80, Et donc c'est ça, c'est un truc vraiment trouble. En fait c'est le Easy Rider des années 80. Je crois que c'est Jack Nicholson qui avait dit à l'époque, quand on est face à un chef-d'œuvre, il faut y aller absolument, en parlant de ce film et en expliquant que si Easy Rider n'avait pas existé avant, Out of the Blue aurait été le Easy Rider des années 80, quoi, c'est ça. C'est un des films majeurs. Pour moi, c'est une des plus grandes révélations cinématographiques de l'année. Si on me demande, par exemple, au festival, c'est quoi les meilleurs films qui passent au festival, je vais toujours dire en premier Out of the Blue. Mais après, il y en a plein d'autres.
Voyais que tu nous as plagié.
C'est le film immanquable par excellence.
Ouais.
C'est beau à pleurer, quoi. Musique de Neil Young. C'est un film canadien, en plus. Dennis Hopper est parti au Canada pour c'est entièrement financé au Canada. C'est tourné à Vancouver. Et voilà, puis en plus l'actrice phénoménale Linda Mann, qui est comme fabuleuse dans ce film, qui a 16 ans, je crois, ou 18 ans à l'époque, qui joue une fille de 15 ans, et c'est la jeune actrice, l'enfant du film de Terrence Malick aussi, Les Moissons du Ciel. Donc c'est ça, c'est une actrice qui a explosé l'écran à travers ces deux films, qui a inspiré énormément d'actrices après, plus tard. Et qui tout d'un coup, après Out of the Blue et peut-être un autre film, je crois, a décidé de quitter complètement Hollywood. Complètement.
Et là, on retrouve.
Ouais.
Là, on retrouve le Julien sur la scène qui présente Out of the Blue.
Puis Linda Mann, c'est mort il y a 2 semaines, en fait.
Ah, ouais,
c'est terrible, parce que moi, je voulais l'impliquer. Je sais que Chloé Sévigné, par exemple, l'actrice, est une fan inconditionnelle de Linda Mann. En fait, c'est elle qui est derrière la restauration aussi du film. Il y a toute une histoire sur l'actrice de Out of the Blue porte une veste en jean avec marqué Elvis dessus, qui a un truc iconique, en fait, du cinéma. Et Chloé Sevigny avait contacté Linda Mann pour voir s'il y avait moyen de pouvoir trouver cette veste. Et en fait, c'est elle qui l'avait, lui a vendu et tout ça. Donc, il y a toute cette histoire autour du film et de cette actrice qui a disparu tout d'un coup et qui a vécu juste normalement. Je crois qu'elle habitait dans une roulotte depuis toujours. Après, voilà, elle est décédée. Moi, je voulais vraiment essayer de la faire venir au festival au moment où on pensait que c'était faisable. Ah. Et,
L'an prochain, tu vas pouvoir la représenter. Il n'y a pas aucun problème. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais je voyais que tu as programmé, je veux dire, un film d'un réalisateur que j'adore, Abel Ferreira, Sibiri.
Ah oui.
Hein?
Ouais.
Ça aussi, hein?
C'est, ouais. Puis, un super film, hein?
Ah oui?
Ben, le truc d'Abel Ferrara, c'est que moi, j'ai beaucoup aimé ces deux derniers films. Oui. J'attends pas grand-chose dans le sens où il y a un truc où on se dit, bon, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que, bon, je veux pas l'attendre avec impatience parce que je sais pas ce que ça va te donner. Mm-hmm. Abel Ferrara est quand même une sorte de créature un peu volatile.
Exactement.
C'est toujours intéressant.
Ouais, hein?
Mais, donc là, je le regarde en étant un peu curieux. Et en fait, déjà, je me retrouve face à un film qui est magnifiquement filmé, qui est un truc, qui est un véritable film psychanalytique sur un homme perdu au milieu de nulle part, qui croise des personnes qui viennent dans son auberge, quelque part, dans un no man's land sibérien, entre guillemets, hein, parce que c'est juste un autre monde. Et après, c'est toute une manière d'avoir une psychanalyse d'individus et à travers ces gens-là, une psychanalyse de société et du monde en général sur le rapport à la violence, à la mort, à la guerre, à l'amour, au sexe, dans une dimension complètement cauchemardesque. On est vraiment littéralement à mi-chemin entre Tarkovsky et Lynch. Et c'est un film qui est fascinant, c'est un vrai film expérience, c'est un vrai truc sensoriel. Là. Et j'ai trouvé ça, mais alors très très fort.
On est déjà conquis.
Oui. Et en fait, c'est à peu près tout le temps qu'on avait. Mais je pense qu'on aurait pu en parler pendant des heures et des heures. Hein, Julien, tu pourrais faire l'émission. On pourrait faire l'émission juste avec toi.
Je ne connais pas aussi. C'est ça, c'est un truc qui est axé sur le spectateur. C'est le plaisir du spectateur. Donc, c'est ça que je cherche, en fait, avec ces films-là. C'est un truc qui peut trouver un plaisir de spectateur. Le plaisir peut être difficile. Enfin, ça peut être. Ça peut être un plaisir qui va du côté de l'humour ou de choses comme ça, ou même du drame, mais il y a vraiment le plaisir de découvrir quelque chose qui stimule. Voilà.
Donc, je vous rappelle que nous sommes avec Julien Fronfred, programmateur de Temps Zéro. Julien, tu nous rappelles qu'il y a la passe Temps Zéro, hein?
Ah oui.
Et là, donc, on peut voir les 11 films. 88$ à voir absolument et à prendre absolument. Hein. Et merci beaucoup, Julien.
Merci, Julien.
Merci à vous, à toi.
Oui, et on espère l'année prochaine se voir en personne.
Absolument, ouais. Absolument.
Bye, Julien.
Bye.